Studio Tamani, voici les informations en français.
À la présentation, c'est Kougadigo, mise en onde de Nuhum Djiré, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans la matinale de Studio Tamani. Le village de Bodjo, dans la région de Bandiagara, se vide de sa population après l'attaque terroriste qu'elle a subie ce week-end. L'information est rapportée par des sources locales. Distribution des engrais subventionnés par l'État à Sikasso et Koro, des paysans se plaignent des quantités qui leur sont allouées. Le Mali vers la labellisation du tissu bogolan, l'information de la Direction générale du Centre de développement de l'artisanat textile. Les artisans du pays saluent l'initiative. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le bilan de l'attaque perpétrée contre le village de Bodjo, région de Bandiagara, samedi dernier a évolué. Il fait état de 17 morts et plusieurs blessés selon des sources locales. Celles-ci rapportent qu'après cette attaque, plusieurs habitants de Bodjo et d'autres villages voisins s'y sont réfugiés ailleurs. Le point avec Juliette Koulibaly.
La situation est préoccupante sur place. Des habitants ont quitté le village pour Bandiagara par crainte de représailles. Des villages voisins aussi désertent leur localité par peur d'être la prochaine cible. Pourtant, à Bandiagara, des sources locales affirment qu'il aurait des difficultés pour accueillir ces déplacés. À noter que parmi les victimes figure le chef de village et quelques membres de sa famille. Toujours au centre du pays, dans la région de Douanza, des hommes armés ont sommé samedi dernier les habitants d'Ela Boni de quitter la localité. Certains se sont déplacés pour Boni à moins de 5 km du village. Cette même localité est sous embargo depuis plus de 2 semaines, un blocus imposé par des hommes armés qui dictent leurs lois dans cette zone. Pour rappel, les habitants de Mamadaga aussi se sont déplacés pour d'autres sites. Cette localité où des affrontements ont eu lieu entre des donceaux et des hommes armés, faisant 3 morts et 2 blessés côté assaillant.
Pendant ce temps, l'armée malienne est en train d'occuper les différentes emprises de la MINUSMA après le départ annoncé de celle-ci. C'est le cas de la base de Gossagou dans le cercle de Bankass que la force onusienne a cédé au Fama. Selon le préfet de Bankass, la quiétude et la stabilité règnent dans la localité. Écoutons Ali Sidibé, préfet de Bankass, il est joint par Fatoumata Kodjo.
Donc les Fama sont là, beaucoup de personnes sur place, l'armée est sur place et ils ont occupé toutes les positions. Et la sécurité est assurée aujourd'hui à Gossagou à 100%. Et la population Peul et Dogon de Gossagou, ils sont vraiment très très satisfaits de la nouvelle situation. Quant à nous, autorités maliennes, on est très très contents aussi de récupérer ce camp de l'aménagement. Mais n'oublions pas quelque chose, c'est le nom de l'aménagement qui est là. En dessous du nom de l'aménagement, c'est l'armée sénégalaise qui était là à Gossagou. Donc on ne peut que les remercier pour le travail bien accompli. N'oublions pas que ces deux pays frères, depuis les indépendances, les Maliens et les Sénégalais sont deux peuples frères, deux peuples partenaires. Donc nous, on peut que les souhaiter bon retour chez eux dans leurs familles respectives.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Une délégation conjointe du Mali et du Burkina Faso s'est rendue ce lundi à Niamey au Niger. Objectif, instaurer un cadre de concertation et de consultation entre les 3 pays dans plusieurs domaines, notamment la paix et la sécurité. Pendant ce temps, l'ultimatum de la CEDEAO, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, de remettre le pouvoir a expiré dimanche dernier. Fatih Attara nous en dit plus.
La mission devra s'entretenir avec les autorités nigériennes, a-t-on appris auprès d'une source à la Primature. Plusieurs sujets seront sur la table. Il s'agit notamment des voies et moyens visant les resserrements des liens de convivialité, d'entente et de solidarité entre les Niger, les Burkina Faso et les Mali. Par ailleurs, plusieurs associations et regroupements maliens ont manifesté ce dimanche à Bamako pour soutenir les Niger. Les associations des ressortissants du Niger ont aussi organisé une marche pacifique. Cette marche est partie du monument Contron Nissané à l'ambassade du Niger au Mali où les ressortissants ont lu une déclaration devant les autorités. Cette visite intervient alors que l'ultimatum de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur le Niger a expiré ce dimanche soir. L'organisation exige à la junte nigérienne de restituer le pouvoir de Mohamed Bazoum, faute de quoi elle s'expose à une intervention militaire de la CEDEAO.
Parlons d'autres sujets à présent. La distribution des engrais subventionnés par l'État est en cours dans notre pays. Cependant, à Sikasso et à Koro, certains producteurs jugent la quantité allouée insuffisante. À Kita, ces opérations de distribution avancent bien, affirment les responsables de la direction régionale de l'agriculture de la localité. Le reportage de Sali Sissoko.
Abdoulaye Bamba est le président de la Chambre d'agriculture de Sikasso. Il regrette les retards constatés dans la mise à disposition des engrais cette année.
La division au niveau des producteurs de coton et céréales, la mise en place a été effectuée jusqu'à 99%. Mais il y a beaucoup de producteurs aussi, il ne faut pas de coton. L'engrais qui est mis à leur disposition, c'est timide. La livraison au niveau des fournisseurs n'est pas au rendez-vous.
À Koro, les quantités disponibles sont en deçà des besoins, témoigne le président de la Chambre d'agriculture du Cercle. Selon Abdraman Amaken Nyangali, la totalité des stocks attribués aux fournisseurs n'a pas été mobilisée.
On a eu que 44 tonnes d'engrais NPK. Ce sont 13 tonnes d'engrais organiques, 20 tonnes IV. Insuffisant pour un seul communautaire à plus forte raison pour tout le secteur. Les agriculteurs n'ont pas comment ils seront servis.
Par contre, à Kita, le directeur régional de l'agriculture, Mamadou Hamamaiga, explique que 500 tonnes d'engrais minéraux et plus de 340 tonnes d'engrais organiques ont été allouées à leur service.
Effectivement, les quantités mises en place ont été distribuées, réparties et distribuées entre les communes et au niveau des commissions de réception et de distribution des intrants.
Par ailleurs, les autorités de la chaîne de production agricole déplorent aussi la lourdeur administrative pour accéder aux produits dans certaines localités.
Un reportage signé Sali Sissoko avec la voix de Halima Yattara. Le Bogolan du Mali sera bientôt labellisé. C'est la direction générale du Centre de développement de l'artisanat textile qui l'annonce. Les artisans se félicitent les autorités pour cette initiative. Ils estiment qu'elle va valoriser davantage le tissu et leur permettre de vivre de leur art. Le reportage de Jiadata Maïga.
Le directeur général du Centre de développement de l'artisanat textile, Ousmane Koulibaly, indique que la labellisation du Bogolan du Mali va apporter une garantie face aux contrefaçons du produit.
Il ne s'agira pas de n'importe quel Bogolan que nous allons prendre sur le marché. Cela permet au Bogolan d'être vendu un peu partout et de faire la traçabilité. L'euro que nous avons conçu, c'est un Kanaga, donc avec sa partie gauche, un cercle qui représente en tout cas la terre et avec un fond de couleur de Bogolan.
Pour les artisans, cette initiative vient à point nommé. Elle permettra aux fabricants et vendeurs de vivre de leur art. Moussa Bagayego, designer et fabricant de Bogolan.
Nous sommes très heureux d'avoir cette labellisation qui va booster l'économie locale, aider les artisans textiles de Bogolan.
A noter qu'un certificat d'homologation co-signé par le ministère du Commerce et de l'Industrie du Mali et le ministère de l'Artisanat et de la Culture a été remis à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAP.
Dans la chronique Zoom sur d'aujourd'hui, on s'intéresse aux enfants intouchables dans les familles. Il s'agit des homonymes du vieux et de la vieille. C'est avec notre chroniqueuse Aïssa Tadjara.
Chacun de vous a probablement un cas pareil à la maison. Le nôtre, c'est ma petite sœur de 12 ans qui porte le nom de ma grand-mère, Bakadja. Dans la famille, on l'appelle affectueusement Kadi ou Msokoroba Toroma, autrement dit, l'homonyme de la vieille. C'est le seul enfant dans la famille à qui tout est permis. Si elle refuse de manger la même nourriture que les autres, la grand-mère exige à ce qu'on lui trouve ce qu'elle veut. Il ne faut surtout pas essayer de lui porter la main. Tu entendras, Ntoroma ne fait rien de mal, mais c'est toujours elle qu'on frappe. C'est à moi que vous en voulez finalement, que personne ne la touche encore. La vieille arrive même à refuser de s'alimenter. Des enfants qui, au fil du temps, deviennent très capricieux. Comme le dit cet adage, qui aime bien châtie bien. Nos papis et mamies en grandissant ne diront pas le contraire.
Et c'est ce qui met fin donc à ce journal présenté par Sekou Gadjigo. Tout de suite, ce sera la version Bamanankan. À la mise en onde, il y a Nuhum Djiré. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.
Voici un message pour les enfants et élèves du Mali.
Révisez et testez vos connaissances en calcul et en français. Pour cela, participez au G École à la radio sur Viamo.
C'est simple, appelez gratuitement le 37 3 2 1 et laissez-vous guider par le service Viamo.
Tous les enfants peuvent participer au G avec l'autorisation de papa ou de maman. Vous pouvez vous servir de leur téléphone.
Le jeu École à la radio, c'est avec Studio Tamani,
le ministère de l'Éducation nationale, Viamo et l'UNICEF.
Notre magazine Malikoura s'intéresse à la recrudescence des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Ces dernières années, les régimes démocratiques sont tombés en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et plus récemment au Niger. Tous pays membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quelles peuvent être donc les causes de ces changements anticonstitutionnels? Notre reporter Moussa Malé Sissoko a interrogé des juristes et analystes politiques suivant leurs réponses dans ce numéro de Malikoura.
Le coup d'État le plus récent est celui perpétré au Niger le 26 juillet 2023 par un groupe de militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Le chercheur indépendant en relations internationales Ngolo Diarra évoque des facteurs qui favorisent le putsch dans la région, notamment l'échec du système éducatif.
L'éducation est bafouée dans ce pays, c'est pourquoi la jeunesse sont toujours instrumentalisées. Et deuxième facteur, la configuration de lutte contre le terrorisme. Et les cas de terrorisme qui a beaucoup impacté, et surtout les cas maliens du Niger et du Burkina Faso. Et ce sont ces difficultés sécuritaires en réalité qui ont révolutionné des officiers à prendre le pouvoir. Troisième facteur, ça c'est la volonté des puissances occidentales de piller l'Afrique.
Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat au barreau malien, affirme que ces changements anticonstitutionnels résultent de la faillite du modèle démocratique dans ce pays. Il pointe du doigt les mascarades électorales, violation des droits de l'homme, la corruption et le manque de vision de développement des dirigeants. Maître Cheikh Oumar Konaré.
On assiste à une faillite des systèmes dits démocratiques en Afrique, mais les pouvoirs civils qui ont été installés ont régné dans la plus parfaite illégalité. Il y a eu une mauvaise gouvernance généralisée, des centaines de milliards détournés. Il n'y a que des fraudes électorales. Ça a débouché sur le désenchantement populaire. C'est parce que tout simplement la population est déçue des hommes politiques.
Maître Konaré estime que le seul remède au coup d'État est la bonne gouvernance.
Il faut attendre que le peuple découvre les failles de la gouvernance militaire. Si tu vois le peuple bouger aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu 30 ans pour vérifier que effectivement les régimes civils ne valaient rien. C'est pour que les civils ne peuvent plus bien diriger. C'est ce qui explique que la population adhère à la cause des militaires. Il n'y a aucune solution, aucune autre que la bonne gouvernance. Tant qu'il y aura mauvaise gouvernance, il y aura coup d'État. L'un appelle l'autre.
L'enseignant-chercheur en sciences juridiques et politiques de Bamako, professeur Jérémy Koulibaly, abonde dans le même sens.
La mauvaise gouvernance dans tous les sens, et la crise sécuritaire qui sont vraiment mis en avant. Quand les militaires arrivent au pouvoir à travers un coup d'État, surtout la zone du Liptako-Gourma, et on met aussi en avant la question du choix des partenaires. Sur le terrain, l'appui des partenaires est vraiment très important pour lutter contre le terrorisme dans la zone du Sahel. L'armée est là pour sécuriser le pays. Donc si l'armée n'a pas les moyens nécessaires pour sécuriser le pays, ça amène des frustrations.
L'universitaire explique que les militaires prennent le pouvoir pour chercher plus de moyens tactiques et d'appui nécessaires afin de combattre le terrorisme au Sahel.
Dans le cas du Mali, c'est la population qui avait poussé le président à la démission et l'armée est venue parachever. Le cas de la Guinée, le président sortant venait de briguer un troisième mandat en violation des dispositions constitutionnelles. Je pense que la voie royale pour endiguer le phénomène des coups d'État, c'est vraiment la bonne gouvernance. On a beau écrire l'interdiction des coups d'État dans la constitution, ça ne résout pas vraiment.
Pour un rappel, des chercheurs américains Jonathan Powell et Clayton Taine, 45 des 54 États africains ont subi au moins un coup d'État. Par ailleurs, ils notent une augmentation significative de renversement des pouvoirs ces deux dernières années au cours desquelles des militaires ont pris le pouvoir au Burkina Faso, au Soudan, en Guinée, au Tchad, au Mali et au Niger.